L'association Bien-être en Yvelines
présente l'émission
Bien-être au quotidien
sur Marmite FM
88.4.
Bonjour, aujourd'hui je suis chargée de vous parler du rebirth ou rebirthing, ou encore appelé aujourd'hui en France la respiration consciente connectée. Je suis Patricia Lebouedec, je suis psychologue et coach depuis 16 ans et j'exerce en cabinet et par visioconférence. J'accompagne des enfants, des adolescents ainsi que des adultes à mettre de la qualité dans leur vie en améliorant leurs pensées sur eux-mêmes et sur la vie. J'utilise différentes techniques, dont le rebirth, depuis 16 ans. Je m'y suis formée en 1999. C'est la date de ma première formation qui s'est déroulée ensuite sur plusieurs années pour améliorer mon expertise. Alors d'où vient le rebirth ? Eh bien, le rebirth, on le trouve dans les travaux d'Otto Rank au début du XXe siècle. Ce disciple de Freud identifie déjà les effets de la naissance sur les comportements de l'enfant et de l'adulte. Cette théorie est peu développée car elle a été rapidement éclipsée par Freud qui, à la même période, développe lui sa théorie sur la sexualité enfantine dont nous connaissons le succès. Les travaux d'Otto Rank sont repris dans les années 70 sur la côte ouest des États-Unis dans un mouvement New Age avec ses expérimentations transpersonnelles. On y trouve Leonard Orr, qui est un des pionniers de la méthode. Lui, à l'époque, il fait des études universitaires de philosophie et de sciences religieuses et il s'intéresse aux techniques de respiration des yogis. Au début des années 60, il fait ses premières expériences de respiration consciente dans sa baignoire. Il remarque qu'en restant dans l'eau assez longtemps et en contrôlant son souffle, il voit remonter des souvenirs de sa petite enfance et un processus qui l'amenait à une transformation intérieure. Il expérimente alors les premières séances de rebirthing ou renaissance, qui connaissent un succès immédiat dans la vague des nouvelles thérapies. En 1974, après des essais hors de l'eau, il lance le rebirthing. Il fonde le Rebirthing Breathwork International en 1979. Au fil des années, il fait évoluer son approche, qui arrive en France dans les années 80, avec des personnes qui se sont formées aux États-Unis avec lui ou avec Sandra Ray. Ces personnes-là, en France, ont créé leur propre école de formation, et aujourd'hui, il existe des associations de professionnels où vous pouvez trouver les annuaires de leurs praticiens. Aujourd'hui, en France, on parle plutôt de respiration consciente connectée. Alors, les principes du rebirth ou respiration consciente connectée, je dirais le principe, c'est déjà d'intégrer et de travailler, si vous préférez, sur les influences des 5 grands inhibiteurs identifiés par Leonard Orr. Alors, quels sont les 5 grands inhibiteurs ? Le premier est le scénario de naissance, c'est-à-dire l'influence des conditions matérielles et émotionnelles qui ont entouré notre venue au monde, c'est-à-dire des 9 mois qui précèdent notre conception aux 9 premiers mois de vie. Le deuxième grand inhibiteur, c'est le syndrome de désapprobation parentale. Ce sont les pensées négatives provenant de l'attitude des parents ou de leurs substituts qui ont cherché à nous contrôler par le biais de la désapprobation. Le troisième grand inhibiteur, c'est la pensée négative spécifique, ou encore appelée mensonge personnel. C'est la pensée négative que nous avons cultivée, consciemment ou pas, depuis notre conception. Notre naissance, si vous préférez. Cette pensée crée des limitations spécifiques. Par exemple, la pensée négative « je suis dangereux ». Je vais donc, inconsciemment ou pas, me diriger vers des expériences avec lesquelles je vais me prouver cette pensée, que je suis dangereux pour moi et les autres, mais aussi, par projection inconsciente, je vais avoir tendance à penser que les autres le sont aussi envers moi. À partir de ces conclusions, je vais prendre des décisions et, par exemple, ne pas m'autoriser à réussir sentimentalement ou professionnellement, parce que c'est trop dangereux. Le quatrième grand inhibiteur, c'est la pulsion inconsciente de mort. C'est le fait d'avoir la mort comme réaction compulsive, ce qui nous amène à nous diriger vers des situations réellement mortifères, la drogue, l'alcool, le tabac, ou même les prises de risque qu'on peut retrouver à l'adolescence, ou vécues comme telles. Exemple, vous ressentez des sensations d'étouffement dans une relation amoureuse de type fusionnel. Le cinquième grand inhibiteur, c'est l'influence des vies antérieures. Pour celui-ci, je sais que tout le monde n'y croit pas, il est donc important de le voir comme un champ d'expérimentation. Effectivement, de nombreuses civilisations croient en la réincarnation et donc au fait que nous puissions garder en mémoire des événements de ces vies passées. Quel type de personnes peuvent s'intéresser ou avoir envie de faire du rebirth ? Eh bien, j'ai envie de dire toutes les personnes qui sont demandeuses, majeures ou mineures, avec l'autorisation des parents, et qui respirent sans assistance mécanique, puisque vous verrez tout à l'heure qu'il y a un exercice de respiration. Ce n'est pas une psychothérapie, les praticiens ne sont donc pas formés pour recevoir une personne qui souffre de symptômes psychiatriques. Comment se déroule une séance ? Il existe plusieurs formes de séances en fonction des écoles. Je vais donc surtout, moi, vous parler de celle que j'utilise en tant que cliente et en tant que praticienne, qui correspond à la formation que j'ai reçue de praticienne en respiration consciente, que j'ai reçue par l'école qui s'appelle OSE, Organisme de Séminaire d'Évolution. Je sais qu'il existe des séances d'une heure où le travail s'appuie essentiellement sur la respiration avec quelques minutes d'échange. Pour ma part, ce sont des séances qui durent 2 heures. Elles se déroulent dans le cadre d'un cycle de 10 séances. La personne choisit de s'y engager à l'issue de la première séance. Le premier temps de la séance est un temps d'entretien où la personne fait état de ses inconforts dans sa vie et des résultats qu'elle souhaite obtenir. Le praticien propose des pistes de réflexion et de changement. Changement de paradigme, changement de perception, changement de pensée si vous préférez. Le deuxième temps est la séance de respiration proprement dite, qui va permettre à la personne un travail en profondeur sur la gestion des émotions pour lui permettre d'intégrer dans le corps les changements proposés et obtenir plus facilement les résultats souhaités. Pour ma part, c'est une pratique douce et profonde de la conscience du souffle qui s'effectue par la bouche. Je sais que certaines écoles proposent de respirer par le nez. Selon moi, nous obtenons une amplitude plus importante en respirant par la bouche. Le principe de la respiration. Le principe de la respiration consiste, comme le nom l'indique en français, de respirer consciemment de façon connectée, c'est-à-dire en boucle, sans faire de pause, entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire. C'est donc une respiration douce, ample, par la bouche, fluide et continue. C'est pour cela que nous l'appelons respiration connectée. Ce n'est pas une respiration forcée pour obtenir une hyperventilation, mais plutôt une surventilation. Dans la vie de tous les jours, nous ne respirons pas normalement. Et à chaque fois que nous vivons quelque chose de désagréable, nous bloquons notre souffle. Nous avons fait cela toute notre vie et tous ces blocages sont inscrits dans notre corps. On parle aujourd'hui de mémoire cellulaire. Le but de la respiration consciente connectée est justement de se libérer par le souffle de toutes ces empreintes négatives, car l'apport en oxygène modifie la chimie de notre cerveau et nous rend à la fois plus réceptifs à nos émotions et plus en sécurité pour les laisser circuler dans tout notre corps et donc les laisser partir. À la fin de la séance, la personne partage son ressenti de la respiration, ses différentes prises de conscience et repart avec une fiche de séance où sont inscrites des affirmations positives pour l'accompagner dans son changement de paradigme et des consignes de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes à mettre dans sa vie. La répétition des affirmations par écrit et de ces nouveaux comportements vont renforcer le travail fait dans le cadre des séances et créer une dynamique positive. Et c'est surtout l'occasion pour la personne de prendre en charge son propre changement, son propre développement personnel, et donc avoir une autonomie avec cette pratique. Il existe plusieurs types de respiration. La respiration dite à sec et la respiration dans l'eau. La respiration dite à sec est la plus courante. Elle se fait sur un divan ou sur un petit tapis posé au sol. La respiration dans l'eau peut se faire en piscine, si vous êtes en groupe, ou en baignoire, dans le cadre d'une séance individuelle. C'est une respiration soit en eau chaude, soit en eau froide. Lors de la 10e séance, c'est-à-dire la dernière, dans ma pratique, avec le même praticien, il est proposé à la personne d'ailleurs une respiration dans l'eau. Cela se fait bien évidemment avec son accord, dans une baignoire avec un pince-nez et un tuba. Elle est totalement immergée et respire avec un tuba que le praticien tient pour qu'il reste en surface et pour que la personne reste en sécurité pendant tout ce temps. La respiration en eau chaude à 37-38 degrés favorise l'émergence de souvenirs d'émotions liées à la vie intra-utérine. C'est d'ailleurs une respiration en eau chaude qui est aussi proposée le jour et idéalement à l'heure où a lieu votre naissance. C'est selon moi une séance puissante car cela nous permet non seulement de vraiment prendre conscience comment notre scénario de naissance et la façon dont nous l'avons vécu influencent notre quotidien, mais c'est aussi l'occasion de s'en libérer. Au cours du cycle de 10 séances, il peut être proposé à la personne qui a le plus souvent déjà une expérience de la respiration dans l'eau ou qui souhaite suivre la formation professionnelle de respiration consciente connectée, de respirer en eau froide, idéalement à 17 ou 18 degrés. Cette situation permet de travailler sur des peurs, des colères exprimées ou refoulées, pour en prendre conscience et mieux s'en libérer. À la fin du cycle de 10 séances, il sera conseillé à la personne de faire un autre cycle avec un autre praticien, mais à ce moment-là, d'un autre sexe. Par exemple, si la personne est une femme et qu'elle n'a jamais fait de travail sur elle-même et ou jamais fait de séance de respiration consciente, il lui sera conseillé de commencer par un cycle avec une femme praticienne et le deuxième cycle de le faire avec un homme. C'est une autre façon de travailler avec cette fois-ci une énergie masculine en présence. Les bienfaits que retire le client. Pour moi, une meilleure connaissance de son fonctionnement émotionnel. Une détente physique liée à la respiration elle-même, une mise en place d'une véritable ingénierie du changement avec la mise à disposition pour la personne d'outils qui lui permettent de poursuivre le travail de façon autonome chez elle. Elle construit alors avec le praticien sa boîte à outils personnels. Cette boîte est composée d'affirmations positives pour créer des nouveaux schémas de pensée plus valorisants et plus soutenants et des consignes comme de nouveaux comportements à mettre en place. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bienêtreenyvelines.fr. Merci et à la semaine prochaine.
Bien-être au quotidien
sur Marmite FM
88.4.